Et c'est l'heure de retrouver Olivier Beauregard pour parler sport, voir ce qui a marqué sa dernière semaine sportive. Cette semaine, je pense que ça va être assez facile pour commencer. On risque de parler de football, j'ai l'impression. Olivier, bonjour.
Tu te trompes pas, tu commences à connaître la routine.
Bien, évidemment que cette conquête des Alouettes de la Coupe Grey, ben, ça a marqué la semaine sportive.
Oui, absolument. Puis on s'attendait pas à ça. Je pense que ce qui a marqué encore plus la scène sportive des derniers jours, c'est le discours de Marc-Antoine Decoy à notre ami et collègue de RDS, Mathieu Proulx, qui a fait un message virulent concernant la langue française. Il a vraiment rendu cette conquête-là émotive avec son discours. Mais bref, moi, j'ai regardé le match, Sébastien, puis c'est pas un secret, là, j'ai couvert les activités de la Ligue canadienne, plus particulièrement celui du Rouge et Noir d'Ottawa, pendant longtemps. Et c'est le premier match de la Coupe Grey que je vois aussi en levant jusqu'à la toute fin. Parce que, écoute, c'était un match serré entre deux équipes qui avaient, disons, deux attentes complètement différentes en début de saison. C'est-à-dire que du côté des Bombers de Winnipeg, on savait que c'était une équipe qui était compétitive. C'était une équipe qui allait pour la quatrième fois à la Coupe Grey, qui avait connu une saison encore une fois hors du commun. Et d'un autre côté, on avait un peu les négligés, les mal-aimés, les Alouettes de Montréal qui ont bien fini la saison, mais qui ont une saison en dents de scie, disons ça comme ça. Et on savait que Cody Fajardo, contre Zach Collaros, qui est le carrière des Bombers, ben, il a jamais connu la victoire en 9 rencontres. Fait qu'on s'est dit, tout porte à croire que les Blue Bombers de Winnipeg vont gagner. Les experts de Montréal se retrouvent à la Coupe Grey par défaut. C'est un peu une chance qu'ils ont eue parce que théoriquement, personne pensait qu'ils allaient battre les Argos de Toronto en demi-finale. Ça, c'est fait. Puis là, aujourd'hui, au moment où on se parle, Sébastien, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Les Alouettes de Montréal sont champions. On vient de remporter un des plus grands matchs de l'histoire de la conquête de la Ligue canadienne de football avec une victoire en fin de match. Écoute, deux bombes de Cody Fajardo en fin de rencontre. Ça a fait en sorte que les Alouettes ont été capables d'aller inscrire un toucher, le toucher important dans ce match-là. Il y a eu plusieurs joueurs étoiles, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir la performance d'un corps arrière qui n'avait pas d'expérience en finale, qui n'avait pas d'expérience vis-à-vis un corps arrière, Sébastien, qui avait beaucoup, beaucoup de succès. Là. C'est un corps arrière, Zach Collaros, qui, comme je l'ai mentionné, a participé à plusieurs éliminatoires. Il a remporté la Coupe. Alors, tu sais, tout portait à croire finalement que les Alouettes étaient vraiment négligées. Et finalement, comme je dis, deux bombes en fin de match. Collaros a géré son cadran de la meilleure façon possible. Il a géré ça comme un vétéran de la Ligue canadienne. Et on est allé inscrire un toucher. Il restait moins d'une minute. Et ça a fait en sorte que les Alouettes se sont sauvées avec la victoire. Ils l'ont pas volé parce que ça a été tout un match de football, serré du début à la fin. Alors, chapeau à Danny Machocha. Tu sais quoi, Sébastien? Ce que je suis le plus content, là, c'est que rappelle-toi, à la fin des camps d'entraînement, là, au début, là, juste avant qu'on se laisse, moi, toi et moi, là, pour la saison estivale, là, à la fin des camps d'entraînement, avant le début de la saison, je t'ai dit, où s'en va cette concession-là? Ça allait de mal en pis. Il y avait même des rumeurs de vente. Ça a été vendu, mais je veux dire, il y avait même des rumeurs que l'équipe ne reviendrait pas à Montréal. Finalement, le groupe Vidéotron l'ont acheté, le groupe Québécois plutôt, l'ont acheté. Mais rappelle-toi, Sébastien, là, cette équipe-là, on ne savait pas tout où elle s'en allait. Et là, ça a pris quelques mois et les Alouettes de Montréal redeviennent une des équipes, une des destinations de choix dans la Ligue canadienne de football. Des fois, comme quoi, la victoire change tout, mon ami.
Absolument, puis ben, ça donne des ailes pour les partisans pour la prochaine saison, assurément, ça.
On me dit déjà, puis j'ai un collègue qui travaille justement à Montréal, un ami qui travaille à Montréal, qui m'a mentionné pas plus tard qu'hier qu'il y a déjà une explosion de demandes de vente de billets de saison.
C'est merveilleux.
C'est incroyable.
On aime ça. Parlons maintenant de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui a commencé là, ses activités. Là, vraisemblablement, on se prépare pour le début.
Oui, absolument. Ça a commencé la semaine dernière. Pas de la meilleure façon possible parce que, rappelle-toi, ils ont dévoilé leur chandail avant le début des camps d'entraînement. Et écoute, autant que je souhaite de tout cœur que cette Ligue-là fonctionne, autant je souhaite que cette Ligue-là connaisse du succès, qu'il y ait des partisans. Sébastien, tu peux pas dévoiler tes chandails de cette façon-là, surtout avec le style de chandail qu'on a dévoilé, là. Au final, c'est 6 équipes dans cette ligue-là. Les 6 équipes ont le même chandail. La seule chose qui change, c'est la couleur du chandail puis le nom de l'équipe en avant. Moi, j'ai trouvé que ça avait manqué d'originalité. J'ai trouvé que on a attendu longtemps avant de dévoiler le nom des équipes. On a attendu longtemps avant de dévoiler les couleurs de l'équipe. tout ça pour ça. Et tu sais quoi, la première impression, c'est un peu comme si tu vas rencontrer tes beaux-parents pour la première fois. Disons que la première impression, elle compte pour beaucoup. Tu sais, si ta première impression fait poète-poète, ça se peut que ça te prenne du temps avant que tu retournes chez tes beaux-parents ou peu importe. Ben, peut-être que c'est un peu boiteux comme comparaison, mais tu comprends où je veux m'en venir. C'est que si tu présentes un produit à tes partisans, que tu leur montres comme ta première chance là, de leur montrer quelque chose de tangible, de potable pour qu'il va représenter ta ligue, ton circuit, si la première chose que tu présentes, c'est ça, honnêtement, c'est un coup marketing qui a échoué. Mm-hmm. Et c'est malheureux, mais ça, fallait absolument pas se planter, et je crois que la ligue s'est plantée à ce niveau-là. Reste que, quand je regarde les camps d'entraînement, moi j'en ai un à côté de chez nous à Ottawa, là, où je peux avoir la chance de voir un peu ce qui se passe. Je regarde aussi ce qui se passe à Montréal, New York, etc. C'est des camps d'entraînement de qualité, Sébastien. J'adore qu'est-ce que cette ligue-là amène en termes de crédibilité, parce que vraiment, là, c'est des camps d'entraînement de la Ligue nationale de hockey, c'est des horaires de la Ligue nationale de hockey, et ça, c'est une chance unique pour des joueuses d'enfin accéder à une ligue qui leur donne le statut de professionnel, qui leur donne de la bonne et de la vraie façon. Alors, non, chapeau, les activités sont commencées. Je sais que la saison, c'est une saison de 24 matchs, ça débute au mois de janvier, mais moi, je vais suivre ça de très près. On va s'en reparler après les fêtes, parce que ça va être une ligue qui va être à suivre. Et oubliez pas, là, ce sont les meilleures joueuses au monde dans une ligue. C'est excitant et tout le monde devrait être ravi de ça, mais vous avez le droit d'être déçu des chandails.
On ira jeter un coup d'œil à ces chandails-là. Tu voulais nous glisser quelques mots sur Patrick Kane aussi cette semaine?
Oui, des petites nouvelles Ligue nationale express. Là, ben, écoutez, d'abord avec Patrick Kane, toujours pas de contrat, toujours pas avec aucune équipe de la Ligue nationale de hockey. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. C'est pas compliqué, là. Patrick Kane est en train de magasiner parce que ce gars-là approche pas mal plus de la retraite que d'autres choses. Je pense qu'il va avoir une chance de recompétitionner avec une équipe qui pourrait remporter la Coupe Stanley à la fin de la saison. Mais il y a une chose qui est certaine dans ce dossier-là. Patrick Kane a pas nécessairement tant que ça l'embarras du choix parce qu'il commande quand même un salaire assez compétitif. Ce qu'on nous dit, par contre, c'est que les Maple Leafs de Toronto font partie des équipes qui auraient rencontré Patrick Kane. C'est Darren Drieger là, de TSN qui a dit que 8 équipes étaient impliquées, mais vraiment, là, semble-t-il que les Leafs sont allés devant ça. Je peux pas m'imaginer, Sébastien, ce que Patrick Kane pourrait apporter aux Leafs de Toronto avec une équipe qui explose offensivement. C'est pas une équipe qui a de la difficulté à marquer des buts. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je sais pas si on met encore une fois à Toronto tous nos œufs dans le même panier, advenant que Patrick Kane devienne un membre des Maple Leafs. Mais il y a une chose qui est certaine, ça fera pas mal à cette équipe-là. Par contre, je suis pas certain que c'est le meilleur choix pour lui, parce que c'est pas une équipe qui réussit à connaître du succès en série parce que ça se passe pas bien dans le filet. Puis en défensive, c'est boiteux. Soyons honnêtes, si on regarde la défensive des Leafs de Toronto, Morgan Riley est à peu près le seul joueur potentiel. Après ça, c'est plus difficile. Alors, je comprends pas encore une fois du côté des Leafs pourquoi on s'entête à vouloir marquer des buts quand on n'est pas capable de ne pas en accorder. Alors, bref, ce sera à travailler, mais c'est un dossier qu'on va suivre parce que tout le monde veut savoir où Patrick Kane va aboutir. Il a 35 ans, il se rapproche d'un de retour au jeu. Rappelez-vous, il a subi une chirurgie à la hanche là en juin dernier. On lui a donné un délai, c'est la raison pour laquelle il s'est pas entendu avec des équipes. Et là, on dit qu'il est intéressé de revenir. Kane, l'an passé, a été échangé des Hawks aux Rangers de New York. C'est un gars qui avait quand même réussi à récolter 57 points en 73 matchs. Alors, il y a encore beaucoup d'essence dans la machine. Maintenant, c'est de voir si il y a une équipe qui va être capable d'en profiter puis d'aller le chercher le plus rapidement possible.
Et en terminant, ben, parlons des Oilers parce que ça va pas bien.
Ah, c'est une catastrophe. C'est complètement une catastrophe ce qui se passe à Edmonton. C'est gênant. La Ligue nationale de hockey, éventuellement, j'ai comme l'impression qu'elle va devoir sévir parce qu'il se passe rien. C'est vraiment là malheureux. On a une équipe qui nous dit en début de saison qu'elle aspire à beaucoup de choses, qu'elle veut être des séries éliminatoires, non seulement pas seulement des séries éliminatoires, mais tu sais, de compétitionner en série, pas juste être de passage. Mais honnêtement, ça va de mal en pis. Cette équipe-là ne va nulle part. Écoute, une autre défaite. On a congédié l'entraîneur-chef tout récemment. On ramène quelqu'un. Il y a une lune de miel de deux matchs. Puis depuis ce temps-là, c'est le même problème qui revient. Alors, on est en train de se demander si on a les bons gens en place au sein de cette organisation-là. Mais une chose est certaine. Avec les Oilers d'Edmonton et Connor McDavid, on sait que le bateau peut tourner rapidement. Mais à un moment donné, ça se peut que ton Connor McDavid soit tanné d'être Edmonton puis qu'il demande à s'en aller. Parce que ce gars-là, je pense qu'il mérite de jouer du hockey de série, du hockey de printemps. Et je pense pas qu'à Edmonton, à long terme, la vision de cette organisation-là va amener cette équipe-là à compétitionner. Parce que ça fait plusieurs années que cette équipe-là tente de faire son chemin dans les séries, ça fonctionne pas. Alors, on verra. Mais non, c'est triste. Et généralement, quand il y a un dicton qui dit dans la Ligue nationale que quand le Thanksgiving américain qui arrive, là, qui est en fin de semaine, se déroule, là, quand on arrive à cette date-là, généralement, les équipes qui ne sont pas dans le portrait des séries éliminatoires de la Ligue nationale, ben, c'est généralement ces mêmes équipes-là qui accèdent pas aux séries éliminatoires. Pas besoin de vous dire que les Oilers d'Edmonton sont comme pas pantoute dans le portrait.
Puis quand tu dis la Ligue peut intervenir, qu'est-ce qu'elle peut faire, la Ligue?
Ben, c'est qu'à un moment donné, c'est une question de gestion. Tu comprends, cette organisation-là, elle peut pas s'écrouler. Et c'est ça le problème, Sébastien, c'est que il n'y a plus personne dans les estrades à Edmonton non plus, parce que cette équipe-là ne compétitionne tout simplement plus. Et c'est comme si on avait laissé cette gestion-là à des gens qui manquent peut-être de compétences là pour être polis. Alors peut-être qu'éventuellement, la Ligue nationale va dire, écoutez, puis je te dis pas que ça va être une grosse annonce publique, mais peut-être que la Ligue nationale va dire, écoutez, vous devez engager une personne de qualité rapidement dans vos bureaux administratifs. Okay. Puis vous avez à devoir nommer une personne personnelle en hockey également qui est capable de faire tourner la roue, parce que là, présentement, c'est un marché qui est blessé, malheureusement, par ce qui se passe. Je te dis pas que c'est ça qui va arriver, mais je te dis qu'à Edmonton, ça fait beaucoup, beaucoup d'années qu'on répète les mêmes discours, qu'on s'attend aux mêmes résultats, mais qui viennent jamais.
Bon, on va surveiller ça assurément. Olivier Beauregard, un grand merci pour le temps cet après-midi, puis à la semaine prochaine.
Absolument. Merci, mon ami.